Et en cette journée qui marque le début du printemps, même si le ciel n'est pas forcément au rendez-vous, et au lendemain du week-end consacré au jardin sur l'antenne de France Culture, quoi donc de plus normal que vous parler aujourd'hui des fleurs? Parce que, eh bien tout naturel que vous paraisse la devanture colorée de votre fleuriste préféré, les fleurs, ou plus exactement les plantes à fleurs, restent une énigme de taille pour la science. Darwin lui-même parlait de l'abominable mystère de l'origine des plantes à fleurs. Pourquoi sont-elles apparues tardivement par rapport aux autres végétaux qui peuplaient notre planète, et comment sont-elles devenues si rapidement le modèle végétal dominant au détriment de tous les autres? Pourquoi la Terre s'est-elle offert des fleurs? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter donc de résoudre cet épineux problème, nous avons le plaisir d'accueillir, pas toujours épineux d'ailleurs, François Parcy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généticien, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale à Grenoble. Vous et votre équipe venez de publier une étude qui lève partiellement cet abominable mystère que j'évoquais à l'instant. Nous sommes également en compagnie d'Hervé Soquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et botaniste spécialiste de l'évolution des fleurs, maître de conférence à l'université Paris-Sud. Et nous sommes, comme chaque jour, en direct sur Twitter. Vous pouvez suivre le fil de l'émission pour compléter tout ce qui va se dire au cours de cette heure fleurie, en suivant donc le compte, at la méthode FC. Et pour commencer, eh bien messieurs, finalement, qu'est-ce qu'il a de si abominable, ce mystère des plantes à fleurs que décrivait Darwin, François Parcy? Pourquoi il est abominable?
Il a été décrit comme abominable parce que Darwin y croyait beaucoup en l'évolution progressive. Et en fait, l'apparition des fleurs, c'est un saut qui lui paraissait un peu trop grand. Et donc, si on regarde, si on compare, qu'est-ce que c'est une fleur par rapport à ce qu'il y avait avant, ça fait beaucoup de nouveautés et c'est ça qui lui paraissait abominable.
Hervé Soquet?
Je confirme, en fait, j'ai juste ajouté que ça fait très longtemps, en fait, qu'on reprend l'abominable mystère de Darwin pour tout ce qui tourne autour de l'origine des plantes à fleurs. Donc ça évoque vraiment un imaginaire collectif de questionnement sur cette origine. Mais la définition que vient de donner François, c'est celle qui est la plus admise sur ce mystère.
François Parcy?
Et effectivement, en fait, pour être précis, ce qui qualifiait d'abominable mystère, c'était pas seulement l'origine, mais c'était la très rapide diversification aussi, et le fait qu'elle soit devenue en quelques dizaines de millions d'années prédominante sur Terre. Donc c'est vraiment ces trois composantes que lui a qualifié d'abominable mystère et pas l'origine seulement.
Parce que, par exemple, aujourd'hui, au temps présent, le rapport entre les plantes à fleurs qui sont donc les angiospermes et les autres types de végétaux, il est de quel taux, entre guillemets, pour qu'on comprenne pourquoi cette espèce de victoire est écrasante?
Aujourd'hui, on considère qu'il y a quoi, environ 300 000 espèces de plantes, disons, et il y en a 90-95% qui sont des plantes à fleurs. Donc aujourd'hui, en termes de nombre d'espèces, c'est absolument majoritaire.
Oui, Hervé, vous vouliez ajouter quelque chose, Hervé Soquet?
Non, je suis d'accord également. Donc là, on parle, pour préciser, des plantes terrestres, donc on parle des écosystèmes terrestres. Également, cette dominance, elle s'éprouve en termes de dominance écologique dans la plupart des écosystèmes, mais pas tous. Hein, dans certains milieux alpins ou dans les forêts boréales notamment, le rapport est un petit peu inversé.
Dans les endroits où il fait plus froid, les fleurs aiment moins le froid.
Voilà.
Alors, on va essayer de restituer rapidement leur apparition dans leur contexte, hein, puisque pour comprendre cette apparition qu'on qualifierait aujourd'hui de disruptive, hein, il y a d'un seul coup, elles arrivent et elles envahissent tout, ce qui était effectivement très contre-intuitif pour Darwin. Eh bien, il faut faire un peu de préhistoire végétale avec vous, si vous voulez bien. D'ailleurs, tout récemment, en Inde, à Calcutta, c'était le 14 mars dernier, des chercheurs ont annoncé avoir découvert la plus ancienne plante fossilisée au monde, une algue rouge d'1,6 milliard d'années. À quand on situe à peu près l'apparition des végétaux sur Terre aujourd'hui? Qui veut Hervé Soquet?
Pour les plantes terrestres, on les situe à environ 470 millions d'années. Pour donner une petite idée. Par contre, les plantes dont on parle aujourd'hui, les plantes à fleurs, sont beaucoup plus récentes, évidemment. Mais il est évident que les plantes terrestres sont à l'origine issues d'organismes qui ressemblaient probablement à ce qu'on appelle aujourd'hui des algues. Et on est certain que l'origine du groupe de la lignée verte, des plantes vertes, est bien, bien plus ancienne. Donc ce résultat n'est pas extrêmement surprenant.
D'accord. Oui, François Bercy, c'est parce que donc on va pas tout refaire toute l'évolution du vivant parce que ça nous prendrait beaucoup plus qu'une heure. Mais disons que le moment de la distinction entre la lignée végétale, la lignée animale et les champignons, les fungi plutôt, on est à quelle période?
Alors là, c'est encore beaucoup plus vieux. Hein. Je pourrais pas le situer précisément. Je sais pas, Hervé, si tu as une idée, mais c'est beaucoup plus vieux que ça.
On ne sait pas.
c'est trouble.
Mais on est entre 1 et 2 milliards d'années, probablement, c'est l'origine des eucaryotes.
D'accord.
Ça paraît très tôt.
Donc les premiers végétaux, pendant très longtemps, hein, la terre en tout cas, qui n'est pas immergée, est déserte. La sortie de l'eau, on estime que c'est aux alentours de 600 millions d'années. Comment est-ce qu'on passe de ce statut des algues au statut de plantes terrestres? Hervé Socquet ? François Bercy.
Au début, les plantes, lorsqu'elles sont sorties de l'eau, ce qui reste aujourd'hui de ces plantes-là, c'est ce qu'on appelle les mousses. Il y a différentes familles de mousses, mais en gros, c'est elles qui ont réussi en premier à coloniser les continents, les espaces émergés. Et puis, les mousses, elles avaient besoin quand même d'eau pour se reproduire, elles n'arrivaient pas à pousser tellement en hauteur. Et donc, il y a un deuxième groupe de plantes qui est apparu, qui lui a inventé les vaisseaux, le système vasculaire, et qui lui a permis de conduire l'eau dans les hauteurs et de capter l'énergie du soleil. Mmh. Et ça, c'est le groupe globalement des fougères, hein. Mais qui n'avait pas encore de graines et qui utilisait l'eau toujours pour sa reproduction. Mmh. Et puis ensuite, vers 300 millions d'années, on a vu apparaître les plantes à graines, qu'on appelle en termes scientifiques les gymnospermes. Et donc ça, c'était l'invention de la graine et ça permettait une reproduction avec des graines pollen qui n'avaient plus besoin d'eau pour se mouvoir ou pour aller féconder. Donc ça, avant la fleur, c'était déjà une incroyable invention par la lignée verte.
Hein. Il faut refaire un tout petit poil de biologie et de reproduction des végétaux. Quelle est la différence aujourd'hui? Alors, dans les trois grands groupes, hein, les fougères et les gymnospermes, et puis on parlera des angiospermes après, quelle est la différence? Quels sont les instruments reproductifs aujourd'hui des fougères?
Alors, les fougères se reproduisent par des spores et elles ont absolument besoin du milieu aqueux pour que la fécondation puisse avoir lieu. Les gymnospermes, donc on peut peut-être en dire un petit mot sur la famille des gymnospermes. Donc aujourd'hui, les plus connus, ce sont les conifères. Donc ça, c'est dans les représentants qui existent encore, c'est la plus grande famille. Ensuite, on a les cycadales qui sont un peu moins connus. On a le ginkgo biloba qui est tout seul dans son ordre. Et puis, on a la famille des gnétophytes qui a peu de représentants, hein, dont Welwitschia mirabilis, par exemple, ou Gnetum gnemon, mais qui ne sont pas des plantes courantes pour nous. Quoi.
C'est principalement pour nous, aujourd'hui, ce qu'il en reste, les conifères.
On peut dire les conifères, voilà.
Et qu'on retrouve, comme vous le disiez tout à l'heure, Hervé Socquet, plutôt dans les latitudes plus au nord, là où les angiospermes n'ont pas réussi à coloniser. Non, pas que.
En partie, non. Il existe aussi des conifères tropicaux. Hein. Il y a une grande famille qu'on trouve beaucoup dans l'hémisphère sud, notamment. Ça s'appelle les podocarpacées.
D'accord.
Et puis dans nos montagnes, les conifères, ils sont très heureux, mais il faut quand même remarquer que quand les conifères s'arrêtent, les plantes à fleurs subsistent. Hein. Que ce soit l'orchidée ou le génépi, on les retrouve encore plus haut dans des infractuosités de rochers où les conifères ont beaucoup de mal à pousser. Donc malgré tout, elles se sont adaptées à toutes les niches écologiques, ces plantes à fleurs. Hein.
Pourquoi est-ce que le système de reproduction des gymnospermes représente une évolution nette et très importante pour le monde végétal?
Avant tout parce que ça libère la plante de ce besoin d'eau pour la reproduction. C'est-à-dire que ça peut se faire en milieu non aqueux. Et justement, c'est à une époque dans l'évolution où il y a eu plus de sécheresse que ça a en fait favorisé ce mode de reproduction. On peut aussi voir que la graine, c'est une occasion pour la plante d'arrêter son développement. Elle peut rester enfouie, elle peut subir le froid, la sécheresse, la salinité. Elle survit et quand les conditions sont meilleures, elle peut revivre. Donc en termes d'espèce, d'être capable d'arrêter son cycle de vie par la graine, c'est un avantage évolutif énorme qui a été sélectionné naturellement.
On pourrait aussi ajouter que leurs ancêtres, probablement partageaient avec les fougères actuelles, l'alternance entre deux générations, hein, complètement indépendantes physiquement l'une de l'autre. Et la génération qui est aujourd'hui invisible, hein, chez les fougères, qui est représentée généralement par ce qu'on appelle un protale, qui vit justement, qui a besoin de milieu aqueux pour la reproduction, elle n'existe plus chez les conifères et chez les angiospermes. En fait, elle a été complètement réduite à une partie de l'ovule et au grain de pollen.
Parce que concrètement, on va rentrer un peu plus dans les détails pour bien comprendre la différence que vont apporter les angiospermes par rapport aux gymnospermes. Concrètement, les graines, le matériel reproductif, il se situe dans un cône. Comment ça se passe en quelques mots? Faites-nous un peu de cours d'évolution sexuelle des gymnospermes, François Bercy.
Si on prend les conifères, où là les organes sont les plus connus, eh bien, il y a un cône femelle qui porte les ovules, et ça c'est la pomme de pin, qui va donner les pignons de pin ensuite. Et le plus souvent sur le même arbre, on trouve les cônes mâles qui donnent le pollen. Et ça, c'est ce qu'on voit au bout des branches quand on passe à la bonne saison. Ça fait un petit nuage de poussière jaune. Donc ça, ce sont les cônes à pollen. Mmh. Et en fait, il faut que voilà, les grains de pollen atterrissent sur le cône femelle et puissent féconder. Ça, c'est majoritairement fait par le vent, même s'il y a quand même quelques exemples où les insectes aident les gymnospermes à se reproduire. Mmh. Et donc ça, c'est radicalement différent des plantes à fleurs, puisque chez la plante à fleurs, on a regroupé sur une même structure les organes mâles et les organes femelles.
Mais on va y venir, mais comment plutôt regardons dans le passé, pourquoi est-ce que c'est radicalement différent des spores des fougères?
Alors ça, c'est surtout dans le pollen que ça se situe.
Non, mais, okay. mais déjà, ça n'a rien à voir en fait, parce que avec une spore de fougère, on peut en théorie refaire une population de fougères. Chez les angiospermes, chez les conifères aussi, les gymnospermes, il faut le grain de pollen et puis l'ovule. Mmh. Il faut les deux. Donc on se situe à des stades différents du développement de la plante.
Donc on avance, ce sont les plantes, quand on pense aux fougères, on imagine des petites fougères basses comme celles d'aujourd'hui, c'est pas vrai, hein, les fougères sont beaucoup plus hautes, peuvent atteindre des tailles colossales.
Tout à fait, donc il y avait des fougères arborescentes, je crois que c'était au Carbonifère, où en fait c'était des arbres, et ça, c'était avec les gymnospermes, ça dominait la végétation à cette époque-là. Mmh. Et c'est seulement un peu plus tard que vraiment les conifères ont pris le dessus et que ça a été eux les grands représentants. Quoi. Mmh.
Donc à l'époque où vont apparaître les angiospermes, on est donc quoi? On est à 250 millions d'années par là?
Alors... Ça, c'est une discussion qui est ouverte.
C'est la troisième grande extinction.
C'est une discussion qui est ouverte. Jusqu'à présent, on disait plutôt 130 millions d'années pour l'apparition des angiospermes. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu arriver quelques publications récemment qui revisitent un peu cette date et qui, sur des bases moléculaires, donc en comparant les génomes ou sur les bases de certains fossiles qui ne sont pas non plus si faciles à interpréter, on a proposé à ce que la date de la première plante à fleurs soit repoussée en arrière vers 215 ou 230 millions d'années.
Hervé Soquet.
Alors, donc moi, je suis en plein dans le sujet. Hein. Un message important. L'âge des angiospermes est aujourd'hui complètement inconnu. Voilà. En gros, on ne sait pas. C'est entre 140 et 250 millions d'années. Et ça, c'est une des questions les plus chaudes en ce moment en biologie de l'évolution. Alors, comme dit François, un des problèmes, c'est justement cette absence de représentants non controversés dans le registre fossile. Hein. Les premiers fossiles de plantes à fleurs non controversés datent de... environ 130 millions d'années.
Il y a à moins de 150, il y a quand même la troisième grande extinction de masse, hein, donc qui raye de la carte 90 à 95% des espèces végétales et animales. Est-ce qu'on imagine que là, il y a, comme ça a pu être le cas pour l'apparition sur Terre des dinosaures, la libération de beaucoup de niches écologiques dont vont profiter des angiospermes pour se diversifier ou pas du tout?
C'est une bonne question. Je pense qu'on ne sait pas du tout, en fait. Ce que je sais qu'on ne sait pas, c'est notamment l'impact de la disparition des dinosaures et de l'extinction de masse à la fin du Crétacé.
Qui est plus tard.
Oui. Hein, ça, mais on ne connaît pas son impact sur la diversification des angiospermes. Donc, il serait encore plus difficile de connaître l'impact
de celle d'avant. Oui, parce que celle que vous évoquez, hein, c'est la disparition du Crétacé paléocène qui a 65 millions d'années. Voilà. Il faut aussi préciser qu'à cette époque, donc c'est l'ère secondaire, hein, Trias-Jurassique Crétacé, on est entre 250 et 65 millions d'années. On sait donc que c'est clairement dans cette époque-là que sont apparues les plantes à fleurs. Le climat de la Terre n'est pas le même non plus.
Il n'est pas le même qu'à quelle
époque? Que maintenant,
qu'aujourd'hui.
Oui. Le climat, il fait un peu plus chaud, il n'y a pas tout à fait de glace au pôle, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes circonstances climatiques. Hervé Soquet?
Je crois que ni François ni moi sommes spécialistes des paléoclimats, mais oui, je crois qu'il y a un consensus sur le fait que, alors déjà, le climat a beaucoup changé au cours de l'histoire de la Terre, et je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faisait plus chaud à l'époque. Crétacé, oui.
Donc, vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, la trace fossile de la première plante à fleurs, elle date de quand, vous m'avez dit, Hervé Soquet?
Environ 130, entre 130 et 140 millions d'années.
En fait, on a une sorte de tunnel dans l'évolution, espèce de trou noir où, entre l'ancêtre commun des plantes à graines et des plantes à fleurs, donc 300 millions d'années, et la date de première apparition des plantes à fleurs connues, hein, disons 130, on a comme ça 170 millions d'années dans lesquelles il a dû se passer des tas de choses dont on a très peu de traces. Et c'est là d'où vient le grand mystère. C'est qu'en fait, sans doute, il y a eu des intermédiaires. Mais on ne les a pas, ces intermédiaires, ni dans les traces fossiles, ni dans des espèces existantes. Mmh. Et c'est ça qui a concouru au mystère, c'est de ne pas avoir ces intermédiaires-là.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et donc c'est ce mystère que nous allons essayer de lever et de comprendre avec les quelques indices dont nous disposons ce qui s'est passé et quels sont les scénarios envisageables pour l'apparition de ces plantes à fleurs. On a longtemps pensé, hein, j'ai lu en préparant cette émission, qu'on a longtemps pensé que le plus vieil ancêtre commun ce serait une sorte de nénuphar, c'est ça ? Ça a été une théorie longtemps...
Le plus vieux ancêtre commun, des plantes à fleurs.
Des plantes à fleurs, oui bien sûr, on parle des plantes à fleurs. Allez, ok.
Alors, on a longtemps pensé mal, dans le sens où on a longtemps pensé que les ancêtres des plantes à fleurs devaient absolument ressembler à des groupes qu'on observe aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, la façon dont on pense l'évolution est complètement différente et ce serait une erreur de vouloir trouver chez des plantes actuelles le portrait d'un ancêtre. Cela dit, c'est vrai que c'est dans un ensemble de familles de plantes qui comprennent les nénuphars et aussi les magnolias et tout un tas d'autres plantes qu'on a recherché dans cette vision ancestrale de l'évolution, les ancêtres des plantes à fleurs.
Là, j'ai une équipe lyonnaise. On vient d'établir que la plus vieille plante à fleurs découverte s'appelle Montsekia, c'est ça ?
Alors, en fait, Montsekia, c'est un fossile parmi de nombreux autres. Ça fait partie des fossiles les plus anciens, effectivement. Serait lui apparenté à un groupe aujourd'hui d'angiospermes, enfin de plantes à fleurs aquatiques qui s'appelle les ceratophyllums. Je ne pense pas que ce soit la seule plus ancienne plante à fleurs. Ça fait partie d'un ensemble des plus vieilles traces fossiles.
François Barcy ?
En tout cas, là où ça a progressé, c'est dans la classification et la phylogénie des plantes à fleurs. Puisque, à une époque, on se demandait qui était la plus ancienne, qui était la plante qui était la sœur de toutes les angiospermes, avoir divergé en premier. Aujourd'hui, il y a quand même des études, dont une de 2014, qui a été faite avec des masses et des masses de données au niveau séquençage génomique. Et on sait aujourd'hui, je pense que ça c'est quand même acquis, qu'en Borrella Trichopoda, qui est une plante endémique de Nouvelle-Calédonie, est la sœur de toutes les autres plantes à fleurs. Donc on ne dit pas que l'ancêtre commun c'était en Borrella ou ressemblait en Borrella. En tout cas, c'est la première à s'être séparée du reste du groupe.
Est-ce qu'il y a un peu comme pour l'arbre phylogénétique du vivant, un fantasme du Last Universal Common Ancestor, du LUCA pour les plantes à fleurs ?
Absolument. Et on se pose beaucoup de questions passionnantes sur cet ancêtre. Je vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens en ce moment au monde qui cherchent à reconstruire tout un tas de propriétés de cet ancêtre commun, le plus récent de toutes les angiospermes.
Mais justement, François Barcy, vous avez contribué avec votre équipe à trouver un lien entre les gymnospermes et les angiospermes. Vous commencez à trouver un maillon, disons, d'une chaîne qui n'est pas complète du tout, mais qui permet de lier les gymnospermes, les conifères, à l'apparition de ce qui aurait pu être les premières plantes à fleurs.
Alors effectivement, de la même façon qu'on fantasme sur ce dernier ancêtre commun des plantes à fleurs, on peut aussi se poser la question du portrait moléculaire du dernier ancêtre commun des plantes à graines, donc des gymnospermes et des angiospermes. Donc on peut en fait regarder les propriétés communes entre les plantes à fleurs et les plantes à graines et se dire à chaque fois qu'on trouve une propriété qui est commune, alors elle était déjà là chez l'ancêtre commun. Et donc c'est un peu le petit jeu auquel on joue, nous, comme vous l'avez dit, dans notre laboratoire, en collaboration avec une équipe de Lyon et une équipe du Jardin Botanique à Londres. En fait, on a regardé chez une plante particulière qui s'appelle Welwitschia mirabilis. Donc, c'est une gymnosperme qui pousse dans les déserts côtiers d'Angola et de Namibie. Et en fait, on a fait un peu l'inventaire de qu'est-ce qui existe chez cette plante qui est utile aussi dans la formation des fleurs. Donc, chez les plantes modèles, on connaît un gène architecte qui va déclencher vraiment la formation du bouton floral. On connaît aussi des gènes qui vont ensuite être responsables de la formation des organes de la fleur, les pétales, les sépales, etc. Et on sait qu'il y a un lien hiérarchique entre l'un déclenchant l'activité des autres. Et en fait, en examinant Welwitschia mirabilis, on s'est rendu compte que le gène architecte, il est là. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons fait. Quand je dis « on », c'est la communauté scientifique. On a également recherché certains gènes qui normalement font les organes de la fleur. On les a trouvés. Et on a aussi trouvé qu'il y a toutes les traces d'un lien hiérarchique préexistant.
Il faut, on va refaire, on l'a fait tout à l'heure pour les conifères et les gymnospermes, redire quels sont, qu'apportent les angiospermes? Pourquoi leur appareil est différencié et qu'est-ce qui va à un moment donné être cet immense avantage évolutif qui va montrer, c'est qui va amener à cette diversification extrêmement rapide? Vous l'avez dit en deux mots, mais il faut refaire un peu de biologie.
Effectivement, il faut que l'ARV m'amène, mais il faut absolument qu'on définisse qu'est-ce que c'est une fleur et en quoi elle est vraiment différente et quel est ce saut dans l'évolution. Donc, Olivier, tu me complètes, mais une fleur, c'est d'abord les organes mâles et les organes femelles qui sont rassemblés. C'est également les ovules qui sont enfermés, qui ne sont plus nus, comme on retrouve ça chez les gymnospermes. Et puis, c'est ce qu'on appelle le périanthe, c'est-à-dire il faut des organes autour des organes reproducteurs. Il faut les sépales, qui sont des petites feuilles, qui ne sont pas exactement des feuilles.
Les sépales, il faut redire, parce qu'on n'a pas les images, mais ce sont sous la fleur les petits bouts un peu.
C'est des sortes de petites feuilles.
Voilà, de petites feuilles
vertes. Quand le bourgeon est fermé, on ne voit que les sépales. Et puis quand ils s'ouvrent, elles disparaissent. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les pétales, qui eux sont connus de tous pour leur couleur, leur parfum, et qui ont été sélectionnés souvent par l'homme parce que c'est ce qui fait l'attrait de la fleur. Et c'est ce qui fait aussi l'attrait de la fleur pour les insectes. Et donc là, un énorme avantage de la fleur par rapport aux plantes à graines, c'est la possibilité de reproduction médiée par les insectes. C'est-à-dire que les insectes jouent vraiment un rôle qu'on connaît
de pollinisateur.
Exactement.
Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cette première description de François Parcy-Hervé-Sauquet?
Alors, donc, tout à fait, ce sont les principaux caractères innovants de la fleur par rapport à leurs ancêtres de plantes à graines. Je vais juste préciser qu'il y a, comme chaque chose en évolution, ce qui est passionnant, ce sont les exceptions. Donc, il existe évidemment plein de fleurs qui sont unisexuées, qui sont comme chez les gymnospermes, avec un sexe mâle ou un sexe femelle. Il existe plein de fleurs qui ont perdu aussi leur périanthe, donc leurs pétales et leurs sépales, etc. Donc, n'oublions pas c'est pas une structure qui est restée fixe. Elle a beaucoup évolué au cours des temps.
Parce que la plupart des fleurs, telles qu'on se les représente avec les étamines et le pistil, sont, il faut le préciser, donc dotées des étamines étant les gonades masculines et les pistils, les ovaires donc sont hermaphrodites.
Absolument.
Voilà, c'est ça. La grande majorité des fleurs le sont.
La plus grande majorité, plus de 90%.
D'accord. Voilà. Et donc, continuez.
Mais il existe beaucoup d'autres choses en fait qui sont moins bien étudiées sur l'origine des plantes à fleurs et notamment, un des aspects très importants qu'on dit souvent, c'est aussi la double fécondation du pollen qui est partagée avec quelques gymnospermes, mais qui est très rare.
Qu'est-ce que c'est la double fécondation du pollen?
Alors, c'est difficile à expliquer, mais en gros, le grain de pollen, quand il atterrit dans une fleur et qu'il va féconder un ovule, il y a un des noyaux, un des gamètes qui va produire la génération suivante. Puis il y en a un autre qui va produire un tissu qui va nourrir l'embryon, mais qui donnera jamais lieu à un nouvel individu.
Un tissu nourricier,
bien sûr. Voilà. C'est comme si on avait chacun un jumeau qu'on assassine à notre naissance.
Mais un jumeau triploïde.
Voilà, un jumeau bizarre.
Et ça a été co-découvert, en fait. Je me souviens d'une session à l'Académie des sciences. Où ça a été, c'est une découverte qui est en partie française en 1890, je crois, par Léon Guignard. Et ce qui était assez amusant, c'est que ça a été co-découvert à 10 ans d'écart par un Russe aussi qui a découvert ça 10 ans avant le Français. Et aujourd'hui, quand on co-découvre un mois d'écart, ça n'a plus aucune valeur. Mais à l'époque, 10 ans d'écart, c'était encore une co-découverte.
Et ce qui est intéressant aussi, en termes d'avantages évolutifs de ces angiospermes, c'est que, toutes ces plantes à fleurs sont, vous l'avez dit, tributaires pour leur reproduction des insectes, mais pas seulement. Des insectes, du vent, de l'eau, de tout leur environnement, en fait, pour pouvoir se reproduire, oui ou non?
C'est quand même majoritairement les insectes.
Majoritairement les insectes.
Évidemment, il n'y a pas que les insectes qui pollinisent. D'après ce que j'ai lu, il y a à peu près 100 000 espèces d'insectes qui pollinisent et 1000 autres espèces. Alors, il y a les cas très connus, des chauves-souris, des
de quelques oiseaux,
etc. Ou même parfois, il y a des petits rongeurs. Mais quand même, majoritairement, pour les plantes qui en ont besoin, parce que ce n'est pas toutes les plantes, pour les plantes qui en ont besoin, c'est majoritairement les insectes qui pollinisent.
Ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, la plupart des gymnospermes actuels sont pollinisés par le vent. Et la plupart des angiospermes actuels sont pollinisés par les insectes. Mais il y a des grandes exceptions. Toutes les graminées, par exemple, sont pollinisées par le vent.
Le printemps, on peut en parler à notre réalisatrice qui est très allergique et qui est arrivée ce matin.
Moi, ça me rend fou aussi. Mais on sait que on est presque certain que c'est secondaire, ça. Donc, on a beaucoup de raisons de penser que les premières plantes à fleurs étaient pollinisées par des animaux probablement des insectes. On ne sait pas lesquels. Ce qui court dans les salons en ce moment, c'est que ce serait plutôt des diptères de type mouche ou un petit groupe d'insectes qui s'appelle les thrips.
Ce qui veut dire que cette explosion de diversification et cette victoire évolutive des angiospermes s'est faite en parallèle aussi d'une diversification immense dans le monde animal.
Tout à fait. Ça, c'est la coévolution, en fait. On pense que cette deuxième partie du mystère de Darwin, qui est la diversification très rapide, on pense que là, les insectes ont joué un rôle très important. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que se créaient des nouvelles espèces de plantes à fleurs, ça se faisait en parallèle avec la création d'espèces d'insectes.
Oui, Hervé ?
Oui, juste préciser que c'est ce que tout le monde pense, tout le monde dit, même Darwin le pensait, tout le monde est d'accord avec ça, mais en fait, on ne l'a jamais encore vraiment prouvé. Et j'ai même des collègues qui sur les insectes qui pensent que c'est peut-être le contraire, en fait. C'est la diversification des angiospermes qui aurait promu la diversification des insectes. Donc en fait, il reste beaucoup à apprendre sur cette question absolument centrale en évolution.
Un des exemples marquants, c'est quand, vous savez, quand les pétales sont fusionnés et qu'on a un tube comme ça au fond duquel les insectes doivent aller avec une trompe, eh bien, s'il y a des mutations dans la plante qui vont faire un tube de plus en plus profond, ça va imposer une pression de sélection sur les insectes pour que leur trompe s'allonge, par exemple. Et donc là, c'est vraiment là où, là, en fait, la modification des plantes va pousser l'évolution des espèces d'insectes.
Il y a trois âges distincts dans cette nébuleuse un peu proto-historique de l'apparition. Et quand on parle de l'extrême diversification, ça va très vite à l'échelle géologique. C'est-à-dire qu'on parle de quoi ? D'une dizaine de millions d'années ?
Disons un peu plus, je pense. On parle de peut-être 30-40 millions d'années où la plupart des groupes de plantes à fleurs, ça a suffi pour qu'ils aient été créés.
Oui, tout dépend de l'échelle des temps à laquelle on se fie. Si les angiospermes ont effectivement 140 millions d'années, comme certains le pensent, alors ça s'est passé extrêmement vite. Ça s'est passé entre cet âge-là et puis la fin du Crétacé. Maintenant, s'il y a une longue période qu'on appelle protractée d'évolution...
Protractée, c'est-à-dire ?
Le fait que les angiospermes auraient pu apparaître bien plus tôt, au Trias ou au Jurassique, alors là, la diversification, en fait, elle ne se serait pas faite aussi vite que ça.
Elle est beaucoup plus lente. On parle de trois âges distincts dans la diversification, l'âge de la lignée, l'âge de la différenciation morphologique et l'âge du plus récent d'ancêtre commun, c'est ça ?
Absolument.
Vous pouvez nous faire la distinction entre ces trois âges-là ?
Alors, on va donner l'exemple chez les angiospermes, justement, qui est un exemple flagrant. L'âge de la lignée, donc ce que disait François tout à l'heure, sa séparation d'avec ses cousins actuels les plus proches, donc les gymnospermes actuels, on le date à environ 320 millions d'années. Ensuite, l'âge de la diversification du groupe en termes d'espèces actuelles, c'est celui-ci qui pose le plus problème. C'est celui-ci qu'on évalue entre 140 et 250 millions d'années. Maintenant, l'âge morphologique, c'est celui qu'on pourrait établir si on trouvait dans le registre fossile tout à coup une fleur, une vraie fleur, comme certains l'ont prétendu il y a quelques années, mais c'est très controversé, qui aurait tous les caractères du groupe actuel, mais qui serait peut-être juste un cousin éteint de la lignée, sans pour autant que ça donne une information sur l'âge de la diversification actuelle.
C'est le fameux dernier ancêtre commun.
Ce serait le cousin du dernier ancêtre commun, voilà.
Et donc oui, ce que je vous disais tout à l'heure, on a parlé, il faudrait voir aussi, surtout un peu dans les différentes familles, comme on considérait longtemps la fleur de Magnolia comme un archétype justement de ces premiers angiospermes. C'est vrai, c'est la même chose que le nénuphar, c'est la même famille. Pourquoi est-ce que ça a été abandonné, cette théorie-là ?
Ça a été abandonné en partie parce que déjà, on ne pense plus, comme je disais tout à l'heure, on n'imagine plus les ancêtres être des portraits identiques des espèces actuelles, mais également à cause de la position dans l'arbre évolutif des angiospermes que le Magnolia occupe aujourd'hui. Comme a dit François, la première divergence au sein des angiospermes s'est faite entre Amborella et tout le reste, ensuite entre les nymphéales et tout le reste, ensuite entre un autre groupe et tout le reste. Et bien plus tard, en fait, on a l'émergence d'un très grand groupe qu'on appelle les Magnoliidae, Et au sein des Magnoliidae, il y a 19 familles et les Magnoliaceae sont l'une d'entre elles. Donc les Magnoliaceae sont en fait la fin de l'évolution d'un très grand groupe à part qui n'a pas d'influence directe sur ce qu'on peut imaginer dans cette commune, toutes les angiospermes.
Et on reparlera là dans quelques instants justement de l'époque moderne, de la diversification et de toutes ces grandes familles de plantes à fleurs qui ont colonisé notre planète.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h34 sur France Culture. Vous venez d'écouter Otis Pan chanter Green Flowers, puisque en ce premier jour du printemps, nous parlons des plantes à fleurs et de leur origine mystérieuse dans l'histoire de notre planète. Nous en parlons avec François Parsi, qui est généticien, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale à Grenoble, et avec Hervé Soquet, qui est biologiste et botaniste spécialiste de l'évolution des fleurs et maître de conférences à l'université Paris Sud. Nous poursuivons donc cette histoire victoire des plantes à fleurs, que l'on pourrait appeler la victoire des fleurs. Bon, ça sonne presque comme une chanson de Laurent Voulzy. Nous voilà en tout cas arrivés à la fin du secondaire. Les dinosaures règnent en maître incontesté sur notre planète jusqu'à ce que cette sale météorite ne vienne faire un gros cratère dans le golfe du Mexique. C'est donc la 5e extinction, la dernière en date, sauf si on a considéré que nous sommes en train de vivre la 6e, mais ça c'est un autre débat. Celle qui nous fait entrer dans l'ère tertiaire, extinction à laquelle résistent donc les plantes à fleurs, les angiospermes et Antoine Beauchamp qui est toujours avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Voilà, vous qui avez également résisté à cette extinction, ouais. Vous êtes allé observer des fossiles de plantes.
Oui, j'ai rencontré Dario De Franceschi qui est paléobotaniste au Muséum d'Histoire Naturelle. Petite incise au passage, vous le savez peut-être pas, mais la recherche en paléobotanique, c'est un peu l'Edelweiss de la recherche en botanique, une recherche de plus en plus rare puisque le nombre de spécimens de paléobotanistes diminue régulièrement. Donc j'appelle les étudiants qui nous écoutent et qui seraient tentés de prendre le relais à foncer. Voilà, le message est passé. Revenons à nos fossiles. Avec Dario De Franceschi, on a ouvert les tiroirs contenant des plantes à fleurs fossilisées du laboratoire de paléobotanique au Muséum d'Histoire Naturelle. On a essayé de comprendre comment l'étude de ces fossiles peut nous aider à découvrir non seulement le chemin évolutif qu'ont suivi les plantes à fleurs, mais aussi pourquoi ces fossiles sont précieux pour nous aider à comprendre comment ces plantes à fleurs s'adaptent aux différents changements climatiques.
Alors, ce que je vais vous montrer ici, on est devant une loupe binoculaire. On a ici une petite fleur qui est dans un petit bloc d'ambre, c'est de la résine fossilisée. Et c'est une fleur qui a en gros 55-8 millions d'années. C'est une petite fleur avec 5 pétales qui sont un petit peu recourbés. Et ces pétales portent une petite touffe de poils. Ce sont des poils rubanés, ils sont plats et ils portent des petites verrues. Et c'est une fleur d'une famille qui est une famille tropicale aujourd'hui, qui est la famille des Icacinacées. Et cette fleur, eh bien, elle a été découverte dans le bassin de Paris, dans des gisements fossilifères du bassin de Paris, dans l'Oise. C'est un témoin, on va dire, du passé de la végétation du bassin de Paris, où on avait une formation tropicale il y a 55 millions d'années. Effectivement, le climat à la surface du globe a changé à de multiples reprises, et en particulier, le tout début de l'ère tertiaire était une période relativement chaude, qui a vu donc une diversification importante des angiospermes. Ça c'est un cas, mais on en a d'autres dans un autre gisement tout près du précédent. Alors je vais vous montrer des petites choses qui sont un petit peu différentes. Alors la première était dans de l'ambre. Ici on a des petites inflorescences à trois fleurs, on appelle ça des cymes triflores. Ce sont en fait des petits éléments qui ont été non pas carbonisés, mais ils ont été lignitisés, on va dire. Ils sont sous forme de lignite, c'est-à-dire on est entre le matériel vivant et le charbon. C'est pas à mi-chemin, mais c'est en cours de transformation. Et on trouve encore les structures pratiquement identiques à ce qu'elles étaient, elles sont juste noircies. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces inflorescences-là proviennent d'un groupe qui est à l'origine en fait de ce qu'on appelle les chênes, les hêtres et les châtaigniers dans nos régions aujourd'hui. Donc là on a les prémices qui ont, là ceux-ci ont environ 56 millions d'années. Voilà, ça c'est encore dans nos collections du muséum. On a cette collection de bois d'Asson qui était collecté, rassemblé par Saporta, Gaston de Saporta, qui était un des pionniers de la discipline de la paléobotanique. Ici, vous avez un petit tiroir qui vous montre justement des fossiles. Ceux-ci sont beaucoup plus récents que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Mais voilà, je vous présente déjà une première feuille. Je pense que en la décrivant, vous allez la reconnaître. Donc, c'est une feuille circulaire avec une échancrure à la base, avec un pédoncule qui part presque du centre. Et ça ressemble donc à une feuille de
nénuphar.
Voilà, bravo, vous avez trouvé. Donc ça ressemble vraiment à une feuille de nénuphar. Et ici, des feuilles rubanées, alors, qui sont tout à fait évocatrices d'un milieu aquatique. Et là, en fait, ce sont des feuilles de roseaux, donc des beaux rubans très, très allongés, qui fossilisent. Et vous pouvez constater que dans ce que je vous ai montré, alors après, on a des feuilles qui sont comme celles-ci, qui sont à trois lobes, ou trois ou cinq lobes. Ce sont des feuilles d'érable. on a beaucoup de choses qui sont assez facilement reconnaissables par la forme, la morphologie, mais quelquefois on se fait prendre au jeu parce que les angiospermes sont tellement, j'allais dire, polymorphes, plastiques d'un point de vue du feuillage, qu'on va avoir des convergences de formes dans des milieux équivalents. On va retrouver des familles qui sont très différentes, qui vont avoir des feuilles qui sont très proches les unes des autres. En fait, les angiospermes répondent très vite aux contraintes climatiques.
Et s'ils répondent très bien aux contraintes climatiques, est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins fragiles et est-ce qu'il y a moins de disparition d'espèces végétales que d'espèces animales ?
Alors, la différence, on va dire, c'est comme les végétaux sont en place, ils ne peuvent pas fuir quand le climat change. Donc la seule possibilité, c'est qu'ils fassent des petits qui soient mieux adaptés. Et c'est sur le nombre de ce qui est produit que sont sélectionnés ceux qui vont résister aux modifications qui ont été engendrées par le climat. Et donc, ça peut se faire quand les modifications climatiques sont sur le long terme, parce qu'il faut que la descendance puisse être sélectionnée. Si elle n'est pas sélectionnée, ça ne marche pas. Et c'est un petit peu le problème d'un changement climatique rapide, où la végétation n'a pas le temps de s'acclimater, en quelque sorte, par ce biais-là.
On va retourner dans mon bureau, ouais. J'ai des choses qui sont sympathiques.
C'est ici, je crois que je n'ai même pas besoin de vous décrire ce que c'est, mais si je vais vous le décrire quand même, c'est une sorte de masse plus ou moins allongée, avec des côtes renflées de part et d'autre, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une noix.
Une noix.
Voilà, très bien. Et donc c'est une noix, mais c'est la partie, le cerneau, la partie interne. Mais on a également ici la partie externe, qui est un peu différente des noix actuelles, parce que en fait, ça vient du Val d'Arno en Italie. Et c'est quelque chose qui a quelques millions d'années. Donc c'est une fossilisation d'une noix qui, pour l'instant, justement, on est en train de travailler dessus avec des collègues italiens, parce que Brongniart l'avait décrit à l'époque comme un Juglans nux torinensis de la région de Turin. Et en fait, il faut qu'on revoie un petit peu la structure, parce qu'on sait pas, on n'est pas sûr que ce soit un Juglans. Juglans qui est le genre des noyers. C'est important parce que pour chaque groupe botanique qu'on va repérer, on va donner une occurrence, c'est-à-dire on va donner l'existence d'un groupe à un moment donné, à un endroit donné. Et c'est très important à la fois pour connaître l'évolution des différentes familles végétales, savoir depuis quand elles existent à la surface du globe, mais aussi c'est important d'un point de vue paléogéographique, c'est-à-dire comment les espèces se sont dispersées à la surface du globe. Donc si on a des points de repère, dire « Ah, ils sont passés par-ci, à cet endroit, à ce moment-là, et ils sont passés par-là, etc. » On a une possibilité de reconstitution des aires géographiques de leur occupation au cours du temps.
Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp au Muséum d'Histoire Naturelle. Antoine Beauchamp qui a donc su reconnaître un nénuphar et une noix. Félicitations Antoine. Vraiment, quel beau travail. Des réactions à ce que vous venez d'entendre, à ce reportage? Je voudrais y réagir, Hervé Soquet, pendant la diffusion.
Non, c'est passionnant. Il est évident que c'est dans le registre fossile qu'on va chercher un très grand nombre de preuves les plus tangibles de ce qui a pu se passer en termes d'évolution des formes, en termes de biogéographie également. Ce qu'a peut-être pas dit Dario, il a peut-être pas eu le temps, c'est que le registre fossile en fait des plantes et des plantes à fleurs en particulier, il est très incomplet. Il est très partiel. Et comparé par exemple aux mammifères, on connaît proportionnellement beaucoup moins de plantes. Mmh. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes. On le comprend pas complètement en fait. Pour donner un exemple, on parlait de tunnel tout à l'heure. Il y a un tunnel majeur de trous dans le registre fossile. On sait que les orchidées, hein, la deuxième famille de plantes à fleurs la plus riche au monde, a plus de 20 000 espèces, tout le monde connaît les orchidées, a probablement au moins 65 millions d'années. Alors, on n'est pas sûr, mais environ. Eh bien, pour ces 20 000 espèces d'orchidées actuelles, il existe trois fossiles connus au monde. Mmh. dont les deux derniers, je crois, ont été découverts très récemment. Et donc ça donne la mesure du fait que ce n'est pas parce qu'un groupe est extrêmement diversifié et colonisé beaucoup d'environnements, pour les orchidées principalement tropicaux, qu'on va le trouver dans le registre fossile. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aux angiospermes en fait. Elles étaient peut-être soit sous une forme comme les orchidées, alors on pense que ce n'est pas le cas, mais herbacées qui se fossilisent mal, ou peut-être dans un environnement qui ne prêtait pas du tout à la fossilisation. Donc l'essentiel de la biodiversité passée, en fait, ne s'est jamais fossilisé. On a vraiment de la chance quand on trouve un fossile.
François Parsi, ça a du mal à fossiliser simplement parce qu'il s'agit de matières biologiques comme les tissus mous des mammifères, on imagine, ont du mal à fossiliser alors qu'on retrouve les os et les tissus durs. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cette absence de traces fossiles
peut-être ou ce
manque, en tout cas, ce déficit de traces fossiles?
Peut-être on n'a pas cherché au bon endroit aussi, parce qu'il faut bien imaginer que certains événements se sont passés sur un endroit du globe, et que si on n'a pas de fossiles issus de ces endroits, ou si ce sont des endroits où il y a beaucoup moins de recherches, on rate peut-être cet événement et certains des intermédiaires. Donc ça peut aussi être dû à une source moindre due à la géographie.
On sait à peu près d'où sont extraits. On voit justement les spots où on a trouvé le plus de fossiles de plantes. Il y a des endroits qui ont été identifiés comme tels, Hervé Sauquet.
Alors, je pense que ces données sont connues. Moi, je connais pas. Ce qu'on peut dire, ce qui est évident, c'est que la plupart des découvertes incroyables qui sont en train d'être faites en ce moment viennent de Chine. Il y a un registre fossile considérable et un énorme, des énormes moyens scientifiques et financiers probablement qui sont mis actuellement dans la recherche paléontologique et paléobotanique en Chine.
Puisqu'on va arriver doucement vers le temps présent, on a parlé de l'apparition, en tout cas des théories et des endroits où on manquait encore d'informations sur l'apparition des angiospermes. Parlons de cette victoire évolutive qu'on imagine rapide, on l'a entendu tout à l'heure, on n'est pas totalement sûr, ça peut aller entre plusieurs dizaines et juste quelques millions d'années. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que cette victoire évolutive, elle peut être due en partie à la grande plasticité génétique des angiospermes. Ça, comparé au monde animal, c'est un végétal avec une grande forme de plasticité génétique, c'est ça, François Parsi?
Je ne sais pas si on peut comparer directement la plasticité animale et végétale. Disons que le brassage génétique qui est dû à ce mode de reproduction, il est certain, grâce aux insectes. Donc on a comme ça un mélange des gènes qui va favoriser une plasticité. Et comme c'était souligné dans le reportage aussi, les plantes, elles sont bien obligées d'être plastiques parce qu'elles ne bougent pas. Et donc elles ont des stratégies alternatives pour s'adapter au changement climatique ou aux pathogènes, etc.
Et qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on parle de plasticité génétique? Pourquoi est-ce que le patrimoine génétique des plantes à fleurs est plus instable par exemple que celui des gymnospermes?
Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne sais pas si c'est le cas. Hervé, tu sais, toi?
Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions génétiques, mais il y a quelque chose dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, en fait. Ce sont les grands événements de duplication des génomes, qu'on appelle paléopolyploïdisation,
qui fait beaucoup de points au Scrabble.
Ouais, dont un certain nombre sont propres aux angiospermes. Et il y a en tout cas des théories qui circulent sur le fait que quand on a une duplication d'un génome entier, où on garde les deux copies, ça donne un terrain favorable à beaucoup de nouvelles trajectoires évolutives. Mais François saura beaucoup mieux en parler que moi.
Oui, tout à fait, puisque si le génome se duplique, en fait, certaines des copies continuent à faire leur fonction et on libère de la pression de sélection les autres copies. Et elles peuvent se diversifier. Et ça, il y a des exemples. Et si elles se diversifient, elles peuvent créer des nouvelles fonctions, de nouvelles structures. Il y a des exemples magnifiques dans la famille des gènes qui notamment font la fleur, les organes de la fleur. C'est une famille qui, au début de la lignée verte, avait un ou deux représentants, qui aujourd'hui en a plusieurs dizaines. Et en fait, leur rôle s'étale toute la vie de la plante, en particulier sur la reproduction. Donc ça va contrôler le moment de la floraison, ça va contrôler la formation du bouton floral, ça va contrôler les organes de la fleur, les ovules, les graines. Et ça, c'est un exemple typique où une duplication du génome libère ces gènes-là et ils peuvent comme ça innover. La plupart du temps, c'est éliminé. Mais si ça confère un avantage sélectif, alors c'est conservé.
Ben voilà un bel exemple de l'explication de cette plasticité génomique. Quelles sont les théories aujourd'hui qui expliquent que les angiospermes aient aussi rapidement investi, colonisé toutes les niches écologiques qui étaient disponibles? Hervé Sauquet, il y a des théories particulières là-dessus qui nous permettent de comprendre cette implantation et cette diversification rapide?
Mais j'aurais du mal à vous répondre en fait à cette question. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de même de spéculation sur la colonisation rapide de toutes les niches. Il est possible tout simplement que grâce à des taux de spéciation particulièrement rapides et une élimination de la compétition en partie, les angiospermes, donc les plantes à fleurs, aient simplement remplacé leur précédent espèce contemporaine assez rapidement. Et donc je ne sais pas si elles ont colonisé plus d'environnement que les ancêtres qui étaient à l'époque.
François Barcy ?
Non, moi je suis d'accord avec ce que dit Hervé, j'ai pas plus d'idées là-dessus. Je pense effectivement que le fait d'avoir énormément d'espèces, ça offre comme une diversité existante et donc ça lui donne un avantage pour aller éventuellement s'adapter.
Mmh. On a parlé tout à l'heure des théories de coévolution avec les insectes, là encore une fois sans très bien savoir qui de la plante ou de l'insecte finalement avait commencé sa diversification ou avait aidé à celle de l'autre. On n'a pas parlé du fait que beaucoup d'angiospermes fonctionnent en symbiose avec des bactéries. On découvre qu'il y a des microbiotes végétaux qui sont très importants. Ça fait partie aussi de l'adaptation, de la plasticité adaptative des plantes qui auraient pu aider à leur diversification, François Barcy ?
Bien sûr, il y a des symbioses avec des champignons, des symbioses avec des bactéries qui permettent de fixer, par exemple,
l'azote
de l'air. Mmh. Ça, c'est un exemple typique, hein, chez la famille des légumineuses, par exemple. Je ne pense pas que ça ait un effet immédiat sur la fleur. Ça a des effets sur le remplissage de la graine, par exemple, qui va être très riche en protéines si l'azote est une source non limitée. Mais par contre, sur la fleur, je ne connais pas spécialement de relation entre les symbioses et la fleur.
Bah, c'est une bonne question. Hein, j'ai mon ancien étudiant qui travaille spécialement là-dessus maintenant, qui s'intéresse à l'évolution du microbiome chez les fleurs. Mm-hmm. Et c'est en fait un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Actuellement. Mais s'il existe des réponses sur la diversification des angiospermes dans ce domaine, ça, on ne sait pas encore non plus.
Mmh. Ouais. Est-ce qu'on a établi aujourd'hui, puisqu'on parlait de l'évolution parallèle de la faune, est-ce qu'on a établi aujourd'hui une forme de théorie ou de parallèle qu'il puisse y avoir entre la grande diversification, le triomphe, et on a fait une émission à ce sujet-là ici, des mammifères et la diversification des mammifères, et précisément l'apparition de ces plantes à fleurs qui sont aussi des plantes à fruits, rappelons-le, et donc qui ont diversifié la capacité nutritive, enfin en tout cas du monde végétal en quelque sorte, Hervé Socquet.
Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de coévolution avec les insectes pour la pollinisation, mais il y a effectivement toutes les stratégies de dispersion des graines, dont une partie est assurée par les animaux et du coup beaucoup plus par des oiseaux et des mammifères. Maintenant, le rôle que ça a eu dans le succès, la dominance progressive des angiospermes, je ne suis pas sûr qu'on le comprenne encore bien. Il est certain qu'il existe un lien étroit, mais on ne le comprend pas bien encore.
Ce qui est certain, c'est que pour le mammifère qu'est l'homme, hein, c'est les plantes à fleurs, elles ont une importance capitale, puisque notre nourriture, elle vient essentiellement des plantes à fleurs. Si on enlève les pignons de pin et les ginkgo que mangent les Chinois, on se nourrit essentiellement de plantes à fleurs. Et les animaux qu'on élève se nourrissent également de plantes à fleurs. Donc, de ce point de vue-là, pour l'apport de nourriture et aussi pour l'apport de molécules, hein, en chimie par exemple, les plantes à fleurs, elles ont un rôle absolument primordial.
Aujourd'hui, on classe ces angiospermes en quatre grandes catégories, en fonction de leur apparence et de leur mode de croissance. On a donc le port arborescent, le port buissonnant, les plantes ligneuses non autoportantes et les plantes herbacées. Vous pouvez nous décrire un peu justement ces quatre catégories en quelques mots, Hervé Socquet.
Bah, c'est pas vraiment une classification, c'est juste un type biologique, un port, comme il existe beaucoup d'autres traits d'histoire de vie. Effectivement, il y a beaucoup de plantes à fleurs qui sont des arbres, et puis il y en a beaucoup d'autres qui sont herbacées. Et puis il y a d'autres types qui existent.
Des plantes à fleurs aquatiques dont on n'a pas parlé beaucoup, mais
voilà,
qui existent. Bon,
c'est assez rare hein, finalement. Il y a des exemples notables comme les nénuphars, les lotus, mais aussi les posidonies, hein, qui sont des plantes à fleurs, qui sont parmi les rares plantes à fleurs qui sont retournées à l'habitat aquatique marin pour le cas. Mais ça reste l'exception. Hein. Chez les plantes à fleurs, le retour à l'eau est considéré secondaire et probablement pas une bonne idée pour se diversifier.
François Barcy.
Ce que soulignait le reportage, c'est qu'on ne peut pas se fier aux feuilles pour classer les plantes ou aux architectures de branches pour classer les plantes, parce qu'il y a des tas de cas de convergence, en fait. Alors que la fleur est un très bon critère, et qu'à l'origine, avant les données moléculaires, c'était la fleur qui permettait d'organiser les plantes en famille. Mmh. Et donc le reste, c'est des classements morphologiques, mais qui ne nous renseignent pas tellement sur l'histoire, finalement.
Mmh. Pour conclure, on l'a dit, hein, les angiospermes ont résisté à deux extinctions de masse. Ça veut dire qu'elles sont relativement solides, ou en tout cas résistantes. Aujourd'hui, on dit qu'elles sont fragilisées par celle qui est en cours, qu'on évoquait tout à l'heure, qui serait, parce que ça fait évidemment débat, la sixième extinction en cours de l'Anthropocène. Un cinquième de toutes les espèces de plantes à fleurs sont menacées d'extinction. C'est directement lié à l'activité humaine, à la pollution, au réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut en dire de Sir Hervé Socquet?
Donc, moi je ne suis pas spécialiste des questions de la sixième extinction et de conservation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que on ne sait pas encore quelles sont les espèces de plantes à fleurs. Il en reste encore de nombreuses à découvrir. Mmh. Hein, chez les mammifères, quand on découvre un nouveau mammifère, ça fait la une de tous les journaux, de toutes les antennes. Chez les plantes à fleurs, ça arrive presque tous les jours. Et donc, il reste encore beaucoup à découvrir et à comprendre sur non seulement la biodiversité en termes de nombre, mais aussi dans son fonctionnement. Et on n'est encore pas complètement en mesure de mesurer ce qui est en train de disparaître.
Mmh. François Barcy, pour conclure.
Et puis, il y a aussi des plantes qui n'ont pas besoin des insectes, hein, qui s'auto-fécondent. C'est une proportion qui, actuellement, n'est pas très forte. Mais on peut imaginer aussi que si notre habitat évolue et si certains insectes viennent à disparaître, ça va mettre une pression de sélection positive sur celles qui sont capables de s'auto-féconder et de se suffire, et qu'on va avoir une évolution qui est en cours aujourd'hui, qui va se diriger un peu plus vers des plantes capables de se passer des insectes. C'est aussi une possibilité.
C'est quelque chose qu'on a constaté de façon expérimentale, ça ? Qu'il y a une recrudescence de plantes auto-fécondées.
Non. Là, je spéculais sur un scénario. Mais par contre, ces plantes-là existent, et il y a des plantes qui ont une façon de se reproduire avec les insectes, mais s'il n'y a pas d'insectes, elles ont des voies de secours où elles savent se reproduire sans les insectes. Donc on peut imaginer que qu'on va dériver vers peut-être dans le futur plus de plantes de ce type-là.
Aujourd'hui, vous avez connaissance d'entreprises de sciences participatives, comme il peut y avoir notamment, je sais, comme vous le disiez à l'instant, Hervé Socquet, pour les oiseaux, pour certains mammifères, de tentatives de recensement un peu à marche forcée, justement, d'espèces de plantes avant qu'elles ne disparaissent. C'est-à-dire que l'idée que si c'est en train de disparaître, il y a peut-être des espèces de plantes qui disparaissent avant même qu'on les ait découvertes, Hervé Socquet.
Alors attention, le rôle des sciences participatives dans la découverte de nouvelles espèces, il est encore pas établi. Hein. Il y avait un éditorial de Nature qui s'amusait à imaginer ce que pourrait faire le jeu Pokémon Go pour découvrir des nouvelles espèces. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des programmes de sciences participatives très actifs en ce moment pour le recensement des occurrences des espèces connues. Mm-hmm. Hein, il y a un exemple fameux qui s'appelle Sauvage de Marue, qui est géré, je crois, par le Muséum d'Histoire Naturelle.
On va le chercher,
qui s'appelle Vigiflore, Viginature.
Donc on va mettre ça sur le fil Twitter de l'émission. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci François Barcy, merci Hervé Socquet. Je profite pour vous rappeler que samedi prochain, vous vous souvenez que fin février, nous avions organisé le forum L'année vue par les sciences. Eh bien, samedi, c'est au tour du camarade Emmanuel Laurentin d'organiser son forum L'année vue par l'histoire. C'est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'accès est gratuit, mais l'inscription est obligatoire sur le site franceculture.fr. Pour notre part, si vous voulez venir nous serrer la paluche ou écouter l'émission en live, vous pouvez passer au salon Livre Paris, dans lequel nous serons en direct vendredi de 16h à 17h pour parler de l'édition en science-fiction. Et puis encore un mot pour vous dire que si vous voulez venir réviser le bac avec nous, nous enregistrerons des émissions spéciales en public avec des classes de lycée, de terminale, les 15 et 16 mai prochains. Si vous êtes prof, parents, si vous voulez participer, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse suivante, lamethode@radiofrance.com. Merci donc à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Laguette-Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Céline Lozène, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Clément Daté à la technique et Victor Buton au droit d'auteur. Et c'est ce soir la première nuit des ondes gravitationnelles. Un peu plus d'un an après leur observation, des animations vont avoir lieu dans une quinzaine de villes en France. Nous en parlerons demain avec nos deux invités pour comprendre pourquoi ces ondes gravitationnelles ont été cruciales pour les physiciens. Tout de suite, il n'y a pas que l'esprit qui compte, le corps aussi un peu parfois, c'est ce que va vous démontrer LSD, la série documentaire toute la semaine avec une série consacrée à la beauté signée Élise Andrieux et Perrine Kervran. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.